France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Fanny Richet et Sacha Mattei, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le deuxième épisode sur les groupes djihadistes à l'assaut des États. Aujourd'hui au Mali, le GSIM ou le JNIM pour le sigle en arabe ne cache plus ses ambitions politiques.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash spécial. L'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone.
D'hier à aujourd'hui, j'ai eu toutes les difficultés du monde. J'ai dû pousser ma moto de Djikoroni à Badalabougou, environ 9 km sans avoir de carburant.
Cette pénurie nous met considérablement en retard et toutes nos activités sont liées au carburant. Nos affaires sont aux arrêts et ça a des conséquences graves.
Si l'armée nous avait réellement protégés, est-ce que nous serions dans cette situation ? Mais je n'ai pas peur. Dieu est plus grand que les djihadistes. Je n'ai pas peur et je ne porterai pas le voile.
Nous sommes la chair dont se repaît une histoire que nous n'avons pas écrite, dit dans un roman de l'écrivaine camerounaise Emle Boum, un personnage dont le village est cerné par les groupes djihadistes. Nous n'avons aucune prise sur nos matins désolés. Qui voudrait anéantir des paysans sans défense, à la foi sans défaut, pauvres parmi les pauvres, élus de n'importe quel dieu, digne de ce nom? Au Cameroun, Boko Haram n'hésite devant aucune forme de violence et le djihad est la caution morale de tous ces crimes. Mais au Mali, dont nous parlons ce matin, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, filiale locale d'Al-Qaïda, a choisi récemment une stratégie différente, concentrer ses attaques contre le pouvoir central, contre ses militaires, mais aussi contre ceux qui les soutiennent, et c'est bien là la limite de l'exercice. Vendredi soir, à la tombée de la nuit, une jeune femme d'une vingtaine d'années, Mariam Cissé, a été fusillée sur la place centrale de son village près de Tombouctou pour avoir exprimé ses encouragements à l'armée malienne sur son compte TikTok auprès de ses 100 000 abonnés qui connaissaient surtout d'elle son humour, ses baignades dans le fleuve Niger ou encore ses séances de danse ou de coiffure. Le GSIM reste donc un groupe djihadiste, mais ceux qui l'observent depuis plusieurs années sur le terrain note néanmoins un nouveau leitmotiv, celui de décrédibiliser le pouvoir militaire d'Assimi Goïta. Le groupe a concentré ses attaques contre les infrastructures stratégiques, sites industriels et miniers, grandes routes et axes commerciaux. Depuis le 3 septembre, il a imposé un blocus de carburant autour de Bamako et d'autres grandes villes du centre et du sud du pays. Les transports, les entreprises, les écoles et les universités sont quasiment à l'arrêt. Bonjour Sédi Kaba.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. C'est une question que vous posiez en 2022 aux éditions Impact au pluriel. Nous serons également dans quelques instants en ligne depuis Dakar avec Bakary Samb. D'abord, Sédi Kaba, quand on dit que le GSIM, ou son sigle en arabe, le JNIM, est aux portes de Bamako, comment est-ce qu'il faut se représenter les choses? Est-ce qu'on parle autant au propre qu'au figuré?
Je crois qu'il y a une prudence à avoir. Le JNIM n'est pas dans les faubourgs de Bamako et n'est pas à ce jour en capacité de prendre la ville, a fortiori de pouvoir l'administrer par la suite. Mais on sent qu'il y a une volonté de se rapprocher de la capitale à travers les attaques. Le JNIM a pu opérer il y a 2 mois l'enlèvement d'un groupe d'Émiratis de 3 personnes, dont un général à la retraite. Et cette opération a été menée à 50 kilomètres de Bamako. Et dans l'élément d'introduction que vous avez passé en début de mission, le communiqué de l'état-major a été fait lors de l'attaque de septembre 2024 qui a porté sur l'école de gendarmerie et l'aéroport de Modibo Keïta de Bamako. Donc il y a une capacité de projection aujourd'hui qui permet au JNIM, sans être totalement à Bamako, de pouvoir monter des opérations, y compris dans les alentours de Bamako.
Quant à cette prise d'otage que vous citiez, deux Émiriens et un Iranien capturés à une trentaine de kilomètres de Bamako, ils ont été libérés il y a quelques semaines, ce qui leur aurait rapporté une rançon de 50 à 70 millions d'euros, d'après Wassim Nasr que nous avions hier dans ce studio, information de France 24, donc recoupée par la suite par RFI. Alors on parlera de cette rançon de 50 à 70 millions de dollars plutôt et surtout ce que le GSIM compte en faire de cet argent-là. Bonjour Bakary Samb.
Bonjour.
Nous avons réussi à vous joindre à Dakar. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur du Timbuktu Institute, enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je vous pose une question qui ressemble à celle que j'ai posée à Sedi Kaba au tout début de cette émission. Quel est l'objectif aujourd'hui du GSIM ou du JNIM à Bamako, dans la capitale malienne? Pourquoi lancer le blocus d'une ville dont l'organisation djihadiste sait de toute façon qu'elle n'a pas pour l'instant les moyens de l'administrer?
Oui, merci beaucoup de votre invitation. Je crois que tout le monde prête au JNIM l'intention de prendre la ville ou de prendre Bamako. Je crois que il faudrait peut-être nuancer cela parce que je crois que plusieurs aspects m'inspirent la prudence sur l'imminence d'un assaut frontal sur Bamako, qui, à mon avis, n'est ni dans la doctrine immédiate ni dans les capacités actuelles du JNIM. Bon, ce n'est pas aussi son objectif. Je crois que le groupe a dû apprendre des expériences passées et semble avoir fait le choix stratégique de ce que je pourrais appeler une forme d'étouffement progressif et une guerre d'usure économique quand on le voit, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, avec les attaques à des infrastructures, à des enlèvements comme aussi contre des investisseurs, les Indiens, les Émiratis et les Chinois. Je crois que c'est cela l'objectif du JNIM. Maintenant, les capacités opérationnelles du JNIM vont naturellement augmenter si l'on sait que ce qui s'est passé, notamment avec l'importante rançon perçue par le JNIM, à mon avis, va être un accélérateur stratégique au niveau du financement, mais aussi au niveau des capacités de mobilisation de ce groupe terroriste.
Le JNIM, qui a longtemps vécu de vols de bétail, de trafic de bois, qui se retrouve avec cette somme de 50 à 70 millions d'euros ou de dollars récupérée après la remise des otages qui avaient été kidnappés un mois plus tôt. Donc l'objectif pour l'instant, à vous écouter, Sedi Kaba et Bakary Samb, vous êtes tous les deux très prudent quant à l'objectif qui serait de prendre Bamako. Non, on est là plutôt dans une stratégie de délégitimation du régime malien, cette junte militaire qui ne cesse pourtant de dire qu'elle est la seule à pouvoir lutter contre les djihadistes. C'est ce qu'elle avait dit lors du coup d'État en 2021. C'était oublié qu'en 65 ans d'indépendance, le Mali avait été déjà dirigé par des militaires pendant 39 ans et 25 seulement par des civils. En attendant, le gouvernement malien a bien dû se rendre à l'évidence.
Les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les cours reprendront le 10 novembre 2025. Ces décisions s'expliquent par des perturbations dans l'approvisionnement en carburant qui affectent les mouvements des acteurs de l'école. Afin d'assurer la continuité pédagogique et l'exécution des programmes d'études, les dispositions sont en cours pour le réaménagement des calendriers scolaires et universitaires.
Alors, est-ce que les cours ont repris? Première question, Sedi Kaba, puisque le gouvernement malien annonçait qu'il reprendrait le 10 novembre, c'était donc hier. Et surtout, comment a été accueillie cette décision par la population malienne? Est-ce que c'est au gouvernement malien que la faute est jetée? Ou est-ce que c'est à ce groupe djihadiste qui, finalement, se délégitime lui aussi auprès de la population en bloquant les écoles, les routes, peut-être? Voilà, qui est le plus perdant dans cette affaire?
Non. C'est clair que chacun est perdant, mais lorsqu'on regarde, vous avez rappelé les 50 millions de dollars en espèces, plus les 20 millions en matériel militaire qui était promis au JNIM. Mais avant cela, il faut rappeler que en octobre 2020, lorsque la Française Sophie Petronin et Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, ont été libérés. Là aussi, on parle d'une rançon qui a été versée entre 15 millions et 20 millions d'euros. Si vous ajoutez, il y a 5 ans seulement, 15 et 20 millions d'euros à 70 millions d'euros, ça montre aujourd'hui le trésor de guerre que le Jinim a accumulé. Et comme le terreau favorable au recrutement n'a pas été encore tari, ils vont pouvoir recruter avec le matériel qu'ils ont et ça leur donne une capacité de nuisance. Maintenant, avec toute cette capacité de nuisance, et leur volonté, c'est de montrer que le pouvoir actuel est incapable d'assurer la sécurité des populations, d'assurer le minimum d'accès au carburant, de permettre aux gens d'aller à l'école. Mais sur le long terme, l'exaspération de la population pourrait se retourner contre le Jinim lui-même sur le long terme. Parce que le pouvoir peut construire un narratif consistant à dire « ce n'est pas nous qui sommes responsables, nous avons fait l'effort de vous approvisionner à partir du corridor Dakar-Bamako, Abidjan-Bamako, mais que les djihadistes, les groupes extrémistes, par leur volonté de vous nuire et non de nous nuire, ont empêché que cela vous arrive et ça entraîne aujourd'hui la paralysie de certains services stratégiques, que ce soit la santé, que ce soit l'électricité, et ça a un impact économique considérable. Et dans la stratégie du Jinim, l'effondrement économique du pays pourrait lui profiter et à la fin, c'est à lui de récupérer la mise. Mais sur le long terme, il y a aussi le retour de la manivelle qui peut être contre-productif pour le Jinim.
Et surtout pour les habitants des villes, puisqu'en 2 mois, les djihadistes ont incendié des dizaines de camions-citernes qui apportaient de l'essence dans les grandes villes maliennes depuis le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Ils ont instauré des points de contrôle sur les routes principales qui mènent à la capitale et attaqué des chauffeurs routiers qui risquent leur vie, comme ils l'ont dit à TV5 Monde.
On ne sait jamais si on rentre vivant. Seul Dieu le sait. Si Dieu te sauve, tant mieux. On le fait parce qu'on aime notre pays. On ne veut pas que les Maliens manquent de carburant.
Depuis le début du blocus des djihadistes, je les ai croisés une seule fois, mais ils ne m'ont pas touché. Mon camion était en panne et j'étais en route pour le garer quand j'ai vu qu'ils avaient brûlé 2 camions-citernes à côté. Les chauffeurs étaient morts.
Ce sont des dizaines, voire des centaines de litres d'essence qui sont partis en fumée depuis 2 mois. Le premier ministre malien, le général Maïga, a même dit s'il faut aller chercher le carburant à pied avec des cuillères, on va le faire. Alors il ne l'a pas fait, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, Bakary Samb, dans le reste du Mali, pour décentrer un petit peu le regard de Bamako, où se trouvent aujourd'hui les plus importants contingents du GSIM ou du JNIM. Encore une fois, son sigle arabe, on va peut-être dire JNIM puisque vous dites tous les deux JNIM.
Absolument. Vous savez, le Jinim a gagné ces derniers temps à étendre son champ d'action, le champ d'action du Jinim. Alors, et le choix de la région de Kayes, ce n'est pas un choix aléatoire pour le Jinim. C'est le cœur aurifère du Mali. 80% de la production nationale d'or, avec un corridor vital vers le port de Dakar. Et en frappant là, dans cette région, le Jinim est en train, ne se contente plus de s'accaparer éventuellement de l'or. Il est en train de paralyser une chaîne d'approvisionnement entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le narratif du Jinim pour délégitimer les autorités, chaque arrêt de production, chaque convoi bloqué, chaque rançon payée, c'est une perte directe pour l'État en termes de redevances minières, avec une hausse des coûts pour les entreprises, la sécurité privée, les assurances, et un message aux investisseurs qui est assez clair, à savoir pour leur dire que le Mali n'est plus viable. Et dans le contexte actuel, je crois qu'avec cette montée en puissance du Jinim, avec les rançons reçues, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une étape où on voit que le Jinim passe d'une guérilla opportuniste qui jadis dépendait des caches d'armes locales à une force hybride capable de planifier des opérations multifronts avec une précision croissante. Donc c'est un tournant. Et aujourd'hui, il y a cet élargissement, le débordement de l'épicentre traditionnel du Jinim avec la Katiba Massina qui au début était au centre du Mali et qui va de plus en plus vers l'ouest, c'est-à-dire en s'approchant des frontières du Sénégal, mais aussi en étant dans des axes d'insécurité que le GNIM a pu installer pour perturber la chaîne logistique et aujourd'hui provoquer les pénuries qu'on est en train de voir sur Bamako. C'est-à-dire que mais quand on va dans des zones comme Mopti, etc., les gens souffrent déjà du manque de carburant et le litre, le prix de litre a été multiplié par 5, par 10 dans ces zones-là.
Mais surtout, comment sont entendus par la population malienne les arguments qui sont donnés par le GNIM quand il attaque les sites miniers, les convois logistiques, les entreprises étrangères, ces attaques dont vous parlez dans une note qui vient tout juste de paraître, d'ailleurs une note du Timbuktu Institute, entre djihad économique et menace des intérêts étrangers, où vous parlez de la capacité croissante du GNIM à frapper simultanément plusieurs fronts, y compris plusieurs raids dans la région aurifère de Kaï, qui est le pôle aurifère majeur au Mali, qui concentre 80% des mines d'or du pays. Aujourd'hui, quand le GNIM attaque ces sites qui sont pour la plupart du temps tenus par des étrangers, pas seulement des Britanniques, d'ailleurs il y a des Indiens, il y a des Chinois, ils disent qu'ils luttent contre les colonisateurs locaux. Mais ça, c'est aussi le discours du régime militaire au Mali. Tout le monde aujourd'hui dénonce ces projets étrangers qui ne bénéficient pas aux populations, voire leur nuisent. Pourquoi pensent-ils que ce discours-là va les aider à recruter dans la population malienne, puisqu'ils ne sont pas les seuls à le porter?
Oui, en fait, le GNIM est en train de jouer ce narratif pour délégitimer le pouvoir. C'est-à-dire que, d'autant plus que le pouvoir militaire aujourd'hui en place à Bamako a pris le pouvoir, si on ose dire, après le coup d'État, avec une grande promesse de sécurité et de souveraineté. Et cette promesse de sécurité n'est pas là. Et le GNIM donc veut renvoyer du coup l'image d'un échec cuisant avec leur nouveau partenaire qui n'arrive ni à protéger ni leurs citoyens ni leurs projets. Donc c'est une guerre par asphyxie. Et le rêve du GNIM, c'est surtout de multiplier ces incidents-là pour dire que le pouvoir n'arrive pas à garantir la sécurité. On le voit en juillet 2025 avec l'enlèvement des Indiens. En août, c'est un raid carrément sur les mines de lithium de Bougouni qui est montré comme exemple de l'émergence économique du pays.
Exploité par une société britannique, Caudal Minerals.
Britannique, voilà. Et Caudal Minerals, voilà. Et donc, pour montrer aux populations que le pouvoir en place n'arrive plus à assurer la sécurité, c'est-à-dire que le pouvoir en place de ce fait-là est en train d'enregistrer un échec cuisant par rapport à la promesse de sécurité et à la promesse de stabilité. Et donc, toutes ces images renvoyées aux populations locales entrent dans ce narratif-là, avec parfois la communication non verbale, justement par ces gestes, pour montrer que l'insécurité reste endémique et que le pouvoir en place n'a pas pu redonner la sécurité et la stabilité au Mali, comme ça a été promis à la prise du pouvoir.
Sédi Kaba,
je crois qu'il est tout à fait exact que il y a derrière tout ça un agenda de délégitimation du pouvoir pour montrer que justement les arguments avancés, la promesse d'une meilleure sécurité, d'une meilleure gouvernance n'ont pas été honorés par les militaires qui ont pris le pouvoir. Et je crois que l'erreur des militaires a été eux aussi de reconduire le paradigme qui a conduit à l'échec des forces internationales, celui de considérer la crise sécuritaire au Sahel comme une question purement militaire et sécuritaire qu'on pourrait régler par la force en augmentant les budgets affectés à la défense, en achetant davantage d'armes, en achetant de drones à la Syrie ou à la Turquie ou à d'autres producteurs. Ça a été une erreur. La deuxième chose, comme vous avez bien rappelé, il y a un constat de la part du GNIM qui est commun entre le GNIM et les autorités, c'est que les ressources ne profitent pas pour l'instant aux populations sahéliennes, particulièrement dans ce cas aux populations du Mali. Mais le GNIM empêche l'exploitation de ressources pour empêcher au pouvoir d'avoir des ressources et créer les conditions de l'effondrement économique. Alors que dans la stratégie du pouvoir, il s'agit de redéfinir les accords avec les multinationales pour avoir davantage de ressources et pouvoir se passer de l'aide internationale.
Parce on y avait consacré une émission
oublier,
d'ailleurs.
Oui. C'est ça, il ne faut pas oublier que le pouvoir souverainiste du Sahel veut montrer qu'on peut se passer de l'Occident, des partenaires, et que pour eux, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir des meilleurs contrats, de négocier le contrat avec Barrick Gold, avec d'autres, et alors que le GNIM est dans une stratégie carrément d'empêcher que les ressources soient exploitées afin que le trésor public ne puisse pas avoir de ressources.
On avait d'ailleurs consacré une émission à ce sujet, la façon dont la junte militaire au Mali aujourd'hui essaye de renégocier les contrats avec les grandes sociétés minières étrangères, mais toute la question qui s'était posée au cours de l'émission avec les invités, c'était pour en faire quoi ensuite de cet argent. On ne sait pas comment le régime militaire ensuite utilise l'argent qu'il réussit à renégocier avec ces entreprises. Alors si le groupe djihadiste du GNIM réussit à faire passer cette idée que l'État malien est un État prédateur, comment réussit-il en revanche à faire passer l'autre idée qui est que lui ne l'est pas alors que lui-même collecte localement des ressources, y compris par des taxes prélevées sur les populations. Sédi Kaba, comment le GNIM ou le GSIM s'en sort entre toutes ces contradictions?
C'est tout à fait exact. Le GNIM, d'ailleurs, vous avez prévu d'en parler à la fin de l'émission de Boko Haram. Boko Haram, par exemple, dit que c'est l'école qui a fabriqué toutes ces élites prédatrices qui ne font que voler l'argent. Ils n'ont pas de paradigme. Le GNIM, dans les parties qu'il contrôle, essaie de montrer qu'une autre gouvernance est possible à travers la justice qu'il rend, à travers la célérité dans le jugement, à travers...
Dans le jugement de quoi ?
Par exemple, on sait que certains litiges sont portés devant le GNIM. Il y a une forme de justice qui est exercée par de justice quand il y a des litiges champêtres ou des litiges entre propriétaires. Et ils ont développé une justice qui... se montre plus efficace que la justice traditionnelle, entre guillemets, parce que si vous allez devant un tribunal, ça va prendre un an, deux ans de procédure, alors que là, séance tenante, on tranche qui est, etc. Donc, ça leur donne une certaine légitimité de ce point de vue. Mais pour eux, en montrant qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent gérer davantage la ressource et qu'il n'y a pas un chef ou deux qui s'assied sur les ressources, à la différence de ce qu'on peut voir à la tête des États, puisqu'ils ont des modes de fonctionnement qui permettent de délibérer, par exemple, la rançon. Ce n'est pas Iyad Agali qui va prendre le chef du GSM, qui va prendre les 50 millions pour aller ouvrir de comptes à Dubaï ou ailleurs, alors que c'est ce que souvent on fait dans des États. Donc, leur démarche de montrer qu'eux, ils peuvent gérer autrement, que la répartition de la richesse est beaucoup plus transparente et les mécanismes de distribution sont beaucoup plus transparents qu'avec les États. Ça s'inscrit aussi dans leur démarche pour se poser en alternative aux États de la région. Et montrer que, par exemple, que pour eux, la charia qu'ils veulent, qu'ils prônent, la charia par exemple, est un mode de gouvernance qui ne permet pas au chef de voler. Parce que si vous voulez punir quelqu'un qui a volé, il vous faut vous-même ne pas être un voleur.
Donc ce groupe, ce GSIM, aujourd'hui fonctionne par ailleurs de façon très décentralisée par rapport à Al-Qaïda, puisque c'est un réseau de cellules semi-autonomes, presque beaucoup plus délocalisé finalement que l'État malien lui-même, qui n'a pas réussi. Je renvoie aux travaux par exemple d'Yvan Guichaoua, qui explique qu'avant que la guerre n'éclate au Mali en 2012, l'État malien a essayé de faire tenir ensemble des espaces géographiques et politiques discontinus, parfois en déléguant des fonctions étatiques essentielles aux ONG et sur les plans politiques et sécuritaires, en cooptant des élites des périphéries qui étaient d'accord pour coopérer, quitte à faire monter des figures localement contestées, comme le colonel Gamou, contre qui a finalement éclaté des rébellions locales. Donc l'État malien souffre de ne pas être assez décentralisé. Le GSIM, lui, l'est beaucoup. D'ailleurs, comment fonctionne-t-il aujourd'hui? Puisqu'on ne parle qu'aujourd'hui de ses violences économiques, entre guillemets, ou de sa guerre économique contre des intérêts économiques, Bakary Samb. Comment le groupe s'est-il progressivement étendu dans les villages où il est allé récemment? Est-ce qu'il a commis des exactions? Est-ce qu'il impose la charia?
Oui, récemment, on a vu une tendance chez le GNIM de vouloir quitter cette étiquette de mouvement qu'on appellerait un mouvement ethno-communautaire, notamment avec les Peuls, pour passer à un mouvement avec une dimension nationale, dans le but justement de se politiser davantage et de pouvoir prétendre un statut de gouverneur potentiel alternatif. On l'a vu avec l'émergence notamment de Abu Huzaifa al-Bambari et Oubina Diarra, avec d'autres ethnies qui étaient en dehors de la Katiba Massina, et Oubina Diarra qui récemment Obama a été chargé par la Katiba, en tout cas par le Junim, de recruter des Sénoufos et d'autres composants de la société malienne. Donc, à part cette forme d'endogénéisation du djihad, où le groupe s'incruste dans, à travers des cellules dans différentes régions avec des couveuses locales qui fait qu'il y a une complicité avec, avec les populations locales, le Junim a un ancrage sociopolitique local assez profond qui n'est pas celui de l'État. C'est-à-dire que l'État, on parle d'absence de l'État. L'État, c'est-à-dire l'État répressif avec ses militaires est présent parfois, mais l'État providentiel protecteur est absent. Et en fait, le Junim essaye de s'engouffrer dans cette brèche, de montrer une présence aux populations locales, ce qui a facilité l'élargissement de son épicentre du centre du Mali vers l'ouest, c'est-à-dire que dans la région de Kaï, où, il faut le rappeler, il y a une résilience particulière dans la région de Kaï en termes de recrutement dû à la résilience économique de cette région qui est soutenue par les fonds venant de la migration, notamment depuis l'Europe. Donc, je pense que c'est une région très difficile pour le Junim, mais où il essaie de nouer des alliances et parfois d'intimider la population locale et les voix qui s'opposent à son message, comme on l'a vu avec l'assassinat du cheikh de la Tijaniya en janvier ou décembre 2025, mais aussi en janvier 2025, mais aussi récemment les menaces proférées à l'encontre du shérif de New York, quand même très respecté dans la région. Pour dire que le Junim a une double stratégie, en tout cas de harcèlement des forces de sécurité et de défense, de se créer des zones qu'il contrôle, mais en même temps de pouvoir nouer des alliances locales et être présenté comme une structure protectrice des populations ostracisées. Je rejoins là, c'est dit quand il a parlé de la méthode qui a été utilisée, c'est-à-dire le militaire, alors que dans cette lutte contre le terrorisme dans l'ouest du Mali et même dans le centre, il y a une dimension ethno-communautaire, il y a une dimension complètement de dialogue avec les communautés qu'on a négligées jusqu'ici, hein, choisissant les travers qui ont perdu les interventions internationales, qui n'ont jamais réussi ni à gagner la guerre, encore moins la paix.
En 2015, d'ailleurs, elles étaient encore sur place au Mali quand ont eu lieu des attentats de grande ampleur comme celui du Radisson Blu à Bamako. Donc, avec le recul, on ne peut pas dire non plus que cette montée en puissance des mouvements djihadistes soit une conséquence directe du départ des forces françaises, mais très certainement des erreurs ont été commises et vous le rappelez tous les deux. Donc, c'est aussi un résultat, c'est dit Kaba, la présence aujourd'hui du Junim au Mali, c'est parce que l'État malien n'a jamais su administrer seul les territoires les plus lointains de Bamako, et y compris quand on pensait qu'un État fort au Mali était possible dans les années 60 avec Modibo Keïta. En fait, ça ne s'est jamais produit.
Oui, absolument. Non, la comparaison me semble très pertinente entre le mode de gouvernance de l'État et le Junim. On a pensé un territoire comme le Mali qui fait 1 240 000 km², et il y a au moins entre Bamako et après Kidal sur la frontière de l'Algérie, après Tillari, 2000 kilomètres. On ne peut pas. L'illusion a été de penser qu'on peut administrer à partir de Bamako un territoire aussi vaste sans qu'on ait fait de la décentralisation. Il y a eu des tentatives. Même l'accord d'Alger qui n'a pas prospéré de 2015 inscrivait la décentralisation, y compris l'élection au suffrage universel de chefs des exécutifs régionaux. Ça n'a pas prospéré. Et je crois que cette erreur d'avoir un pouvoir central jacobin qui dicte à partir de là où il se trouve des ordres qui ne correspondent pas aux réalités locales, a fait le lit du Junim, a permis au Junim de prospérer. À la différence de l'État jacobin, eux, ils ont d'abord, à l'origine, c'était une fêtière, le Junim, de plusieurs mouvements en Sardine, la Katiba Massina, en Sarroul, etc. Et avec une gouvernance presque semi-autonome, même s'il y a une coordination, ça leur permet de prendre en compte les réalités. Ce que font les mouvements djihadistes, que s'ils sont dans la région de Kaï, ils essaient de répondre aux préoccupations locales, de répondre aux considérations locales, adapter leur stratégie, alors que souvent, on a vu dans les États, on projette des fonctionnaires qui ne comprennent rien aux réalités locales et qui sont rejetés par les populations. Du coup, il n'y a pas une acceptation de l'État par les populations. Et cette brèche qui est ouverte, les groupes djihadistes profitent pour s'engouffrer. Et une des erreurs, je crois, qui est commise aujourd'hui au Sahel, c'est que on a considéré encore dans la lutte contre le terrorisme les populations comme faisant partie du problème et non de la solution. Donc, du coup, il y a aujourd'hui une méfiance envers
les structures de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité de la part des populations, sur lesquelles surfent les mouvements djihadistes qui, eux, cherchent à montrer qu'ils sont du côté de la population et qu'ils prennent en compte les préoccupations de la population.
Et le chef du JNIM, Iyad Aghali, il est lui aussi passé du combat autonomiste, éternellement perdant, comme le dit Yvon Guichaoua, au djihad. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est converti au djihad d'une certaine façon?
Oui, la stratégie de Iyad et des autres qui fait la différence par rapport au mouvement irrédentiste, que ce soit le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad avant, et aujourd'hui le Front de Libération Armée, c'est que eux, ils se disent du côté des mouvements djihadistes comme Iyad et les autres Koufa, qu'il vaut mieux garder l'intégrité territoriale du Mali et asseoir la charia sur l'ensemble du territoire et non morceler le Mali, avoir un Azawad indépendant ou qui serait distinct des autorités maliennes. Donc il y a une grande différence, et c'est peut-être pour cette raison, de mon point de vue, que les tentatives d'avoir des passerelles entre le JNIM et le FLA dont on a parlé il y a quelques semaines n'ont peut-être pas prospéré à cause de la forme de l'État et à cause aussi du problème de la laïcité. Les groupes irrédentistes, pour garder leur relation avec l'extérieur, avec leur soutien extérieur, défendent le principe de la laïcité, alors que les autres sont dans une démarche d'un territoire malien unique avec la charia comme mode de gouvernance.
Et pourtant, des discussions se nouent entre eux. Par exemple, le JNIM essaye de convaincre des groupes locaux comme le Front de Libération de l'Azawad, qui n'est pas islamiste, qui est un groupe de séparatistes Touareg, de les rejoindre. Alors pour l'instant, les discussions n'ont pas l'air de bien prendre. Vous disiez, Sédika, asseoir la charia sur tout le territoire, c'est l'objectif du JNIM. Les femmes doivent désormais porter le voile intégral dans les cars. Le porte-parole du JNIM s'adresse ici à une société de transport, Diara, contrainte début septembre à suspendre ses activités pour cause de complicité avec l'armée malienne. C'est ce dont l'accusait le groupe djihadiste. L'armée malienne, ce sont les FAMA. Et cette entreprise a dû présenter ses excuses au JNIM.
La condition pour obtenir notre pardon, c'est de ne plus s'ingérer entre nous et les FAMA. Si quelqu'un monte dans vos cars, ce n'est pas de votre rôle de soupçonner la personne. Que vous connaissiez la personne ou pas, vous devriez l'amener à destination. Le deuxième point ne concerne pas que Diara Transport, mais tous les usagers de la route. Que tous ceux qui voyagent, à commencer par les cars, les minibus, les voitures personnelles, les cyclistes, les motos, les chartiers, n'embarquent pas les femmes qui ne portent pas le hijab complet.
Alors pour que le porte-parole du JNIM se permette de faire une telle annonce, Bakary Sam, est-ce que c'est parce que le groupe djihadiste s'estime aujourd'hui suffisamment fort pour imposer au Mali ce genre de règles ?
Oui, le groupe se sent assez fort, mais quand même, elle reste conscient du fait de ne pas pouvoir gouverner tout seul. Ce qui se profile, je crois, c'est plutôt une formule dans laquelle le JNIM aurait tout intérêt à négocier une parcelle du pouvoir, lui permettant de garantir un certain nombre de normes, hein, comme le port du hijab, etc., mais pas à l'Afghan, justement, parce que le JNIM a appris aussi des leçons du passé. Et je crois que ce qui se profile aussi, quel que soit l'avenir du Mali, de la gouvernance, le JNIM est en train de tout faire pour devenir une force politique qui peut compter sur l'échiquier au Mali. Et ce n'est pas dans le sens d'imposer une gouvernance islamique, en tout cas islamiste comme la Taliban, mais plutôt de trouver des islamistes modérés, trouver des convergences avec certains segments de la société civile, mais en tout cas, in fine, pouvoir exercer une partie du pouvoir et profiter des prébendes. C'est ça qu'il faut noter, que le JNIM s'inscrit désormais dans la logique d'une force politique qui veut compter dans le Mali du futur. Et ça, si on ne l'intègre pas, je pense qu'on aura raté un certain nombre d'aspects qui nous permettraient de comprendre, d'autant plus qu'il y a cette endogénéisation du djihad dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en même temps, une manière une stratégie de construire un groupe qui reflétera de plus en plus les composantes nationales du Mali, à savoir des Peuls, des Bambara, etc., en s'adossant à cela. Donc, les alliances de circonstances avec le FLA, etc., tout cela montre que le groupe est parti maintenant d'une logique de guérilla, entre guillemets, sauvage, pour aller dans le champ politique avec des alliances de circonstances, des calculs bien menés pour asseoir son statut d'acteur politique normal dans le Mali d'aujourd'hui.
Le FLA, je rappelle, c'est le sigle pour le Front de Libération de l'Azawad, les séparistes Touareg. Alors vous disiez, Bakary Samb, que le JNIM regarde du côté de l'Afghanistan pour apprendre des erreurs du passé et essayer de ne pas les reproduire. Est-ce que ça veut dire aussi, c'est dit qu'Aba, qu'en pensez-vous? Hier, Wassim Nasr nous disait qu'au Sahel, on s'inspire aussi beaucoup, je parle des groupes djihadistes du Sahel, qui s'inspirent de ce qui se passe en Syrie. Dans quelle mesure aujourd'hui le JNIM regarde du côté syrien, se place dans le cadre d'une forme de scénario syrien? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, est-ce que Iyad Ag-Ghali se prend pour Ahmed al-Shara?
Oui, et c'est absolument, le rapprochement est intéressant. C'est que on remarque qu'il y a, al-Shara l'a fait en arrivant au pouvoir en et Syrie, avant, ouais. une stratégie de dédiabolisation. Montrer que ce n'est plus le mouvement terroriste qui pose des bombes, montrer que, voilà, on a changé, il y a une mue complète. Dans le cadre du JNIM aussi, Bakary semble la rappeler, il y a une sorte d'agenda politique que l'on observe à travers une stratégie de diabolisation. Il y a quelques années, quand on regarde dans le rétroviseur l'attaque de Solan qui a été imputée au JNIM, où on a tué 160 personnes à Solan dans le nord-ouest du Burkina, ou dans la région de Barsalago au Burkina, où on a tué beaucoup de civils. Là, le JNIM se montre avenant envers les populations en disant que vous pouvez circuler, vous pouvez emprunter tous les axes, y compris ce que nous contrôlons. Vous n'avez aucun risque tant que vous êtes dans les bus en ordre séparé, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Donc, il y a une stratégie de reconquête du cœur des populations de la part du JNIM.
Mais pardon, est-ce que ça veut dire que les porte-paroles du JNIM ont commenté et dénoncé aussi la fusillade, cette jeune femme de 20 ans qui, vendredi, a été tuée en pleine nuit?
Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. D'accord. Et je crois que ils ne l'ont pas revendiqué non plus parce que ils sont dans cette stratégie de dédiabolisation, montrer que nous avons changé comme en Syrie, que voilà, que nous sommes devenus fréquentables, etc. Et cette dimension qu'il ne faut pas négliger, que Bakary a rappelé, celle de montrer qu'on est devenu une entité nationale. Jusqu'ici, on voyait des revendications en Peul, des revendications en Tamashek, montrant que bon, pour un pays comme le Mali, c'est des Peuls et des Touaregs, ils sont minoritaires. Mais le fait de mettre en avant ces derniers temps un prêcheur Bambara qui parle, qui édicte les langues, les règles en Bambara, montrait que on a réussi à élargir le cercle au Bambara et que on est prêt, peut-être si jamais l'occasion s'est présentée dans différentes formes de compromis, à gouverner, à apporter une solution et à se présenter. Il n'y a pas aujourd'hui, comme on l'a rappelé, il n'y a pas à l'heure qu'il est un scénario à la syrienne, l'effondrement d'une capitale africaine et l'arrivée tout de suite du JNIM. Mais ils sont dans un agenda politique. Quand on regarde à quelle échéance ils vont le faire, avec qui ils vont le faire, quel type de compromis ils vont trouver pour participer à la gouvernance des pays, ça, ce sont des questions qu'on observera par la suite.
la voix de la chanteuse malienne Djeli Tapa. Née dans la ville de Kaï, à l'ouest du pays, elle vit aujourd'hui au Canada et cette chanson qui date de 2024, Dankoroba, ça veut dire influente, elle évoque les 9 femmes impliquées dans le premier gouvernement de l'Empire mandingue au XIIIe siècle. « Je suis l'héritière, dit-elle, de femmes de pouvoir, l'héritière de femmes éclairées qui défont les intrigants. » C'est le deuxième épisode de notre série sur les djihadistes à l'assaut des États, aujourd'hui au Mali, où le JNIM défie le pouvoir militaire d'Assimi Goïta, qui a justement pris le pouvoir en 2020 en assurant que les militaires étaient les seuls à pouvoir combattre le terrorisme. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, les groupes djihadistes prospèrent sur des États faibles, même si le terme est débattu aujourd'hui, en tout cas des États occupés par ailleurs. Ainsi, des factions issues de Boko Haram dans l'immense région du lac Tchad, entre Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Quand les eaux ont commencé à monter, les attaques en pirogue se sont multipliées autour de nous et nous avons perdu beaucoup de proches. Alors un matin, c'était en décembre dernier, on a décidé de fuir. Le soir même, les Boko Haram ont pris possession de notre village pour y installer leur QG. C'est l'armée qui est venue ici tout brûler pour les chasser. L'armée tchadienne contrôle la terre, mais sur le lac, c'est le royaume de Boko Haram.
Au micro de RFI, le chef d'un village sur le lac Tchad qui doit mener de front et la montée des eaux et les attaques de Boko Haram, plus précisément de 2 factions issues de ses rangs, les groupes djihadistes ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest, et le Jazj, le groupe sunnite pour la prédication et le djihad, qui tous les deux tirent parti du recul de la coopération régionale. Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, chargé de recherche CNRS au laboratoire Les Afriques dans le Monde, le LAM, et à Sciences Po Bordeaux. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots de quel noyau commun sont nés ces deux groupes et pourquoi ils ont chacun décidé de mener leur combat propre, indépendamment l'un de l'autre, en tout cas en 2016?
Alors c'est effectivement une histoire ancienne, hein. C'est d'abord un mouvement social important dans le nord-est du pays dans les années 2000 et puis en 2009 on a une insurrection armée qui aboutit à la formation d'une guérilla rurale qui en 2015 va faire allégeance à l'État islamique et se diviser en 2 en 2016. Hein. Une faction, donc JAS, vous l'avez rappelé, qui va rester sous la direction du leader historique Aboubakar Shekau. Et puis une faction qui va obtenir la reconnaissance de l'État islamique, garder ce nom de ISWAP, hein, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest.
Géographiquement aujourd'hui, et Shekau est mort en 2021, aujourd'hui comment ces groupes se répartissent autour de cet immense lac Tchad? Je crois que la région fait 30 000 km², quelque chose comme ça.
Alors oui, c'est une géographie assez particulière et assez imbriquée, puisqu'en fait, en 2021, effectivement, ISWAP a pris le contrôle de la forêt de la Sambisa, qui était la zone dans le centre de l'État du Borno, hein, dans le nord-est du Nigeria, où Shekau lui-même était basé. ISWAP contrôle, disons, le nord du Borno, et puis les zones rurales dans le nord du Borno plutôt, hein, le gouvernement garde le contrôle des villes, qui sont entourés de tranchées. On a quelque chose de néo-médiéval. Hein. Quand on vole dessus le Borno, on voit ces villes comme ça entourées de tranchées. Et puis on a des groupes, disons, survivants de JAS, hein, qui continuent de résister, même assez bien d'ailleurs. Hein. D'une part, dans le nord du lac Tchad, hein, la partie nord du lac Tchad, des îles, hein, c'est une zone de marécage et d'îles, donc on le lac, en fait, on peut y habiter. Et puis une zone de montagne, ou en tout cas de collines, disons, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, qu'on appelle les monts Mandara, et puis des petits groupes dans le centre même du Borno, dans des petites zones de forêt. Donc la carte est assez compliquée.
ISWAP et JAS, deux organisations concurrentes, mais avec une même doctrine, des mêmes méthodes. Sur quoi est-ce qu'elles s'opposent?
Alors il y a des différences très importantes, hein, qui ont causé la séparation de 2016. Disons que JAS est dans une logique qu'on appelle en lien avec la théologie islamique takfiri, hein, donc cette idée au fond que même si on est musulman, si on est contre le groupe, au fond on n'est pas musulman, hein, on est un apostat et on mérite d'être attaqué, pillé, réduit en esclavage éventuellement. Alors que ISWAP, à partir de 2016, a vraiment développé une logique pour recréer des liens avec les civils musulmans, pour essayer de mettre en place une organisation plus durable, hein, aussi d'avoir un système d'échange, de fiscalisation, un système de commercialisation, d'accès et de vente, aussi des productions agricoles qu'ils contrôlaient. Donc on a vraiment deux logiques assez différentes, même si depuis 2016, ça a un peu bougé. On voit que JAS s'inspire aussi, notamment la mise en place du système fiscaux, hein, initié par ISWAP. On voit que JAS est aussi en train d'aller dans cette direction, d'adopter une forme de rationalisation, si on veut, de l'organisation.
Donc l'ISWAP, on rappelle, c'est l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces deux organisations se sont longtemps livrées une guerre violente et encore dimanche, des combats ont fait 200 morts côté ISWAP, d'après plusieurs sources. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, Vincent Fouché, enfin si vous avez d'autres informations. Mais est-ce que c'est le cœur aujourd'hui de leur combat, c'est-à-dire de se livrer une bataille l'un contre l'autre, ou est-ce qu'ils ont d'autres préoccupations et un peu comme au Mali, cette idée de délégitimer des États, de décrédibiliser des pouvoirs en place?
Oui, alors je crois que la direction générale, ça reste quand même l'idée d'affronter des États qu'ils considèrent comme païens, hein. Mais effectivement, ils sont aussi très occupés. Alors par épisode, hein, il y a des espèces de cycles, ça remonte et puis ça redescend. Et là, c'est vrai que depuis septembre, on a une montée des violences entre JAS et ISWAP, extrêmement forte ces derniers jours. Là, sur le lac, j'ai aussi entendu parler. On voit des vidéos qui circulent, qui signalent des bilans importants. Et ça, c'est très important parce que les luttes entre djihadistes, au fond, les djihadistes sont les meilleurs tueurs de djihadistes et les luttes entre factions djihadistes sont très très sanglantes et souvent d'ailleurs elles déterminent des défections. On a le Nigeria mis en place et les autres États de la région d'ailleurs ont mis en place des programmes de défection pour encourager les djihadistes à sortir et on sait très bien que quand les combats internes, enfin disons entre les deux groupes s'intensifient, on voit plus de sorties et ça c'est une bonne nouvelle, hein, disons pour les armées des États de la région qui sont sans doute moins efficaces que les groupes djihadistes pour tuer des djihadistes.
Un mot Vincent Fouché sur le travail que mènent ces organisations pour recruter de nouveaux combattants. ISWAP vient de créer une école d'élite de formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel cours on y dispense? C'est à destination de qui et pour former quoi?
Oui, alors ISWAP est vraiment, en partie à cause de cette inspiration qui vient de l'État islamique, hein, est vraiment dans une logique de rationalisation, de bureaucratisation. Quand ISWAP a pris le contrôle de la forêt de la Sambisa, les gens de JAS, les anciens de JAS, hein, des défecteurs, m'ont raconté qu'ils avaient vu arriver ISWAP avec des ordinateurs, hein, avec des ventilateurs pour rafraîchir les ordinateurs, puis aussi avec un système de prison, hein, très moderne, disons, par rapport au système très très fruste que Chekao utilisait auparavant. Donc au fond, cette réforme bureaucratique, hein, on fait du papier, on encadre, on administre, on utilise la prison pour réguler le comportement. Au fond, un projet comme ça, beaucoup plus étatique, beaucoup plus rationalisé que JAS. Et c'est vrai que j'ai entendu récemment, alors ça reste à vérifier, mais j'ai entendu récemment effectivement que ISWAP est en train d'investir dans la formation, donc au-delà de l'école coranique, disons standard, mais de faire des espèces, une sorte d'école de jeunes cadres où on forme à l'informatique, à l'anglais, des enfants venus du bassin du lac Tchad, mais aussi au-delà, semble-t-il, hein, d'Afrique de l'Ouest. On m'a parlé du Mali, la Mauritanie et du Niger. Donc voilà, dans l'idée de développer une capacité à long terme, en fait, hein. Alors on va voir évidemment ce que va donner cet effort, mais disons qu'il est très symptomatique de la volonté de développement à long terme de ISWAP. Évidemment, la question, c'est est-ce que ça va tenir face à la pression de l'armée et puis aussi la lutte qui continue de JAS contre ISWAP.
Donc ISWAP qui est aujourd'hui la principale plateforme régionale de l'État islamique, au point qu'elle chapeaute l'État islamique au Sahel qui officie au Mali, avec donc l'intention d'être capable un jour d'administrer des populations. Elle le fait déjà, en tout cas le Crisis Group estimait en 2022, je crois que 800 000 à 3 millions de personnes vivaient sous le contrôle de l'ISWAP, mais là l'idée c'est vraiment de montrer que l'ISWAP peut être une force administrative tout simplement.
Oui, bah, ils le sont déjà. Il y a des tribunaux, il y a des sortes de systèmes de santé assez basiques, il y a une administration, une gestion, un système fiscal, voilà, et c'est déjà en place. C'est très simple, hein, mais d'une certaine manière, c'est assez efficace. Parce que les gens, les civils qui vivent dans les zones contrôlées par ISWAP, alors ne sont pas nécessairement enthousiastes, hein, de la présence de ISWAP, et ils y voient aussi bien des problèmes, mais du moins ils trouvent que c'est une justice qui est proche, qui est accessible, qui est rapide et qui est assez efficace. Et ça, c'est un facteur central, au fond, dans la crédibilité des djihadistes. Ils n'ont pas nécessairement besoin de se faire aimer, mais du moins, ils ont besoin qu'on les considère comme un voilà, comme acceptable, disons, comme passable. Et cela, d'autant plus que ISWAP protège les civils contre les abus de JAS, contre les pillages et le recrutement forcé. Et ça aussi, c'est une des façons dont ISWAP a pu créer la crédibilité et la légitimité aux yeux des populations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils affrontent, ils combattent JAS. C'est aussi pour continuer à se montrer en défenseur de la population, en tout cas de la population musulmane des zones rurales qu'elle contrôle, pour maintenir leur légitimité.
Et dans un contexte en plus régional où les États sont assez fragilisés, il y a une instabilité politique assez généralisée de part et d'autre de ce lac Tchad, entre le Nigeria qui aurait essuyé un coup d'État manqué, c'est ce qu'affirmaient deux médias il y a 3 semaines, et même si l'armée nigérienne dément, mais le président Bola Tinubu a priori était visé par un coup d'État, les élections contestées au Cameroun, la transition difficile de Déby père à Déby fils au Tchad, et tout ça, bien sûr, facilite l'expansion de ces groupes. Je vous remercie beaucoup, Vincent Fouché, politiste chargé de recherche CNRS au laboratoire Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux. Je renvoie à l'article que vous avez fait paraître en septembre dans Afrique 21, Brûler les camps, la résilience djihadiste dans le bassin du lac Tchad. Un mot pour conclure, c'est Sédhi Kaba. On entendait Vincent Fouché dire combien certains groupes djihadistes aujourd'hui, comme ISWAP, se montrent garant de la sécurité des administrés, en l'occurrence dans la région du lac Tchad. Mais ça paraît fou aujourd'hui d'entendre ces groupes djihadistes dire qu'ils sont là pour protéger les civils, et c'est le cas au Mali. Ils disent qu'ils sont beaucoup plus à même de protéger les populations que l'armée malienne elle-même et les supplétifs ou les milices qui les accompagnent, y compris russes. L'organisation ACLED, par exemple, qui peu suspecte d'être conciliante avec les groupes djihadistes, elle s'est spécialisée dans la collecte et l'analyse de données sur les conflits armés, montre qu'il y a beaucoup moins d'attaques létales aujourd'hui de ces groupes djihadistes que des États. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette information-là? Quelle réserve faut-il y mettre? Et est-ce que les États en question sont prêts à discuter avec ces groupes dont qu'ils ne peuvent plus tellement accuser manifestement de massacrer les populations?
Oui, il y a un contexte, on a bien fait de parler de Boko Haram et du bassin du lac Tchad. Il y a aujourd'hui des passerelles entre le bassin du lac Tchad et le Sahel central. Les groupes coopèrent entre eux. Les groupes du bassin du lac Tchad ont bénéficié de l'expertise des groupes du Sahel central dans la fabrication des UED, par exemple. Au début, les groupes du bassin du lac Tchad ne s'en servaient pas. Et il est important de voir que la mauvaise gouvernance est exploiter au fond la mauvaise gouvernance des États. J'ai vu dans le bassin du lac Tchad moi-même que, par exemple, comme il y a ce qu'on appelle des katibas piscicoles, c'est que les gens qui exploitent, les pêcheurs, sont obligés de verser des taxes au groupe Boko Haram ou à JAS pour continuer à exploiter, à faire la pêche. Et les groupes djihadistes perçoivent moins que les États. Donc, du coup, les pêcheurs préfèrent aller vers les groupes djihadistes plutôt que d'aller vers les États, où là, ils ont le sentiment qu'on va leur donner un reçu et que la taxe est moins importante que l'État. Donc, il y a ces éléments-là. Et à mon avis, les États vont être obligés, tôt ou tard, de voir, comme on a vu dans le cas du Niger, où on a mis en place un programme Repentir contre Pardon pour faire venir les gens de Boko Haram, comme il y a au Nigeria aussi un programme pour inciter les gens à partir. Il sera absolument indispensable qu'il y ait un accord de discussion entre les États et les groupes djihadistes à un moment.
Même si pour l'instant, ils s'y refusent totalement. Merci beaucoup, Sédhi Kaba, d'avoir été avec nous. Votre dernier livre a paru aux éditions Impact, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation. Vous êtes le président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES. Et je remercie Bakary Samb qui était avec nous depuis Dakar, président fondateur du Timbuktu Institute, qui a produit récemment plusieurs études sur le sujet du jour. On met le lien sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Les recherches ont repris ce matin en Malaisie dans l'espoir de retrouver des survivants d'un naufrage.
Ils étaient au moins 300 à avoir quitté la Birmanie à bord de plusieurs bateaux la semaine dernière, des immigrés, en grande majorité des Rohingyas, minorité musulmane, persécutée en Birmanie, rappelle le quotidien malaisien The New Straits Times. Une de leurs embarcations, qui comptait environ 70 personnes, sans gilet de sauvetage, indique Reuters, a chaviré au large des côtes malaisiennes et thaïlandaises, ajoute le quotidien malaisien The Star. 21 corps ont été repêchés à cette heure et ce drame remet en lumière le quotidien des Rohingyas qui a empiré depuis le retour au pouvoir de la junte en Birmanie il y a 4 ans. La guerre civile ne fait qu'aggraver le sort de ces Rohingyas, souligne le journal The Express Tribune. La junte bloque l'aide humanitaire, utilise les Rohingyas comme boucliers humains, a alerté devant l'ONU Wai Wainu, une militante de la cause Rohingya emprisonnée pendant 7 ans en Birmanie. Les Rohingyas, désormais ciblés par l'armée d'Arakan, un groupe armé ethnique principalement bouddhiste, qui combat la junte mais qui reproduit les mêmes persécutions contre la minorité musulmane, massacres, tortures, enrôlement forcé, violences sexuelles, énumère The Express Tribune. L'armée d'Arakan a également mis en place des restrictions de circulation, commis des pillages contre les Rohingyas, ajoute le média birman The Irrawaddy et Human Rights Watch.
Description corroborée par le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés.
La vie des Rohingyas est définie chaque jour par le racisme et la peur, a confirmé Filippo Grandi à la tribune de l'ONU fin septembre. Le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés avait également évoqué le quotidien difficile des Rohingyas exilés au Bangladesh. 1 300 000 hommes, femmes et enfants qui souffrent également des coupes drastiques de l'aide internationale, comme le rappelle aussi Bangladesh Sangbad Sangsta, l'agence de presse nationale du Bangladesh.
Most people here are entirely dependent on humanitarian aid. That's especially hard for the young people who are.
La plupart des habitants ici dépendent entièrement de l'aide humanitaire. C'est particulièrement difficile pour les jeunes qui grandissent ici avec des opportunités limitées en matière d'éducation, de formation professionnelle et de moyens pour survivre, décrit Filippo Grandi, haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, depuis le camp de Kutupalong dans le district de Cox's Bazar au Bangladesh. Ici, ajoute-t-il, les étés sont très chauds, les risques d'incendie élevés et lorsqu'il pleut, les glissements de terrain rendent le quotidien dangereux. De nombreux Rohingyas à qui il a parlé disent vouloir rentrer chez eux, mais tant que leur pays, la Birmanie, n'est pas sûr, ils n'ont pas d'autre choix que de rester ici, explique le commissaire de l'ONU aux réfugiés. Le sort des Rohingyas, l'une des crises humanitaires les plus tragiques de notre époque, a reconnu Mohamed Yunus, le chef du gouvernement provisoire au Bangladesh, également lauréat du prix Nobel de la paix. Mohamed Yunus a reçu une délégation turque à Dhaka la semaine dernière, explique le journal The Star. Il a admis que les Rohingyas survivent dans des conditions difficiles dans le camp tentaculaire de Cox's Bazar au Bangladesh. Les enfants grandissent avec un accès limité à l'éducation. Le Bangladesh et les États-Unis s'engagent donc à garantir des moyens de subsistance pour les réfugiés, à faire pression sur la Birmanie et l'armée d'Arakan pour mettre fin aux violences afin de songer à un rapatriement sûr des Rohingyas, détaille le quotidien bangladais The Daily Star et l'agence de presse turc Anadolu. Mais en attendant que la Birmanie ne redevienne un pays sûr, ses vœux pieux restent lettre morte. Des milliers de Rohingyas continuent de risquer leur vie en mer, déplore The New Straits Times, souvent à bord d'embarcations de fortune pour tenter d'atteindre la Malaisie ou l'Indonésie. Un désespoir dont profitent des passeurs malaisiens, accuse encore The New Straits Times. Le naufrage qui a fait au moins 21 morts à cette heure porte les marques d'un réseau structuré de trafic d'êtres humains, selon la police. Et certains pensent qu'il vaut mieux mourir en mer que de mourir à petit feu de faim ou des combats en Birmanie. C'est ce qu'a confié un Rohingya réfugié au Bangladesh à l'agence Reuters. Aujourd'hui, indique encore Reuters et la BBC, un autre bateau transportant 230 personnes est toujours porté disparu au large de la Malaisie.
Suite et fin de votre revue de presse, Catherine, au Nicaragua où le régime présidentiel étend la censure à Internet.
Le dernier bastion de la liberté d'expression et de la presse dans un pays sous la coupe du régime présidentiel bicéphale, rappelle El País. Le Nicaragua, dirigé par Daniel Ortega et Rosario Murillo, qui font emprisonner ou assassiner les voix dissidentes, ajoute Diberentes. Le régime présidentiel a mis en place une loi sur la convergence des télécommunications. Alors derrière une rhétorique de modernisation, de fracture numérique réduite, ajoute Diberentes, le régime Ortega Murillo veut en fait contrôler non seulement ce qui se dit au Nicaragua, mais aussi les antennes et les écrans par lesquels transite chaque message. Ce n'est qu'une loi Bayon, résume l'opposition et le journal nicaraguayen Confidencial, un système capable de reconstituer les communications entre individus, leur origine, leur fréquence, leurs horaires, autrement dit, un cadre juridique pour mieux restreindre la liberté d'expression au Nicaragua.
Merci Catherine Dutu.